Dans nos studios à Paris sur RFI, et on retrouve tout de suite Michael Ponge avec le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Juliette, il est 10h10 à Santiago. L'extrême droite en tête du premier tour de la présidentielle au Chili affiche inédite le nostalgique de la dictature. José Antonio Kast affrontera le candidat de la gauche radicale au second tour, tandis qu'au Venezuela, là, les chavistes écrasent de tout leur poids l'opposition lors des scrutins régionaux. On décrypte avec nos deux invités. Et puis, on se rend en Martinique avec nos confrères de la première, Tiziana Marone. Un préavis de grève général illimité et reconductible est lancé.
Oui, après la Guadeloupe, la Martinique se mobilise à partir d'aujourd'hui contre l'obligation vaccinale des soignants, mais aussi contre la vie chère.
Rendez-vous dans 15 minutes, Tiziana. Bienvenue à tous.
Vamos a elegir entre libertad y comunismo.
Le choix entre la liberté et le communisme. Voilà à quoi se résumera le duel final de la présidentielle chilienne le 19 décembre prochain, selon José Antonio Kast, le candidat de l'extrême droite nostalgique de la dictature Pinochet, qui arrive en tête du premier tour avec 28% des voix. Ses partisans exultent.
Nous avons besoin que quelqu'un vienne mettre de l'ordre pour reconstruire la maison, la nettoyer et corriger ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que José Antonio Kast est la meilleure option pour cela.
Meilleure option face au jeune député Gabriel Boric, candidat de la gauche radicale. Il recueille un peu plus de 25% des votes, alors que les sondages le plaçaient en tête. Ses soutiens à lui sont plutôt inquiets.
J'ai l'espoir que les forces démocratiques s'unissent, mais je ressens de l'inquiétude par rapport au fait que Kast atteigne 28% après tout ce que le pays a vécu. Et la participation est assez faible.
Des propos recueillis par Justine Fontaine et Raphaël Morand à Rimlipold, la presse chilienne, elle, visiblement, ne s'attendait pas à la victoire de Kast.
Oui, c'est une victoire surprenante, titre El Mercurio, la victoire d'un outsider, ajoute La Tercera. Selon le journal, le chef du parti républicain se dit confiant de remporter aussi le second tour. D'après El Mercurio, la véritable surprise vient plutôt d'un autre candidat qui sera sans doute très, très courtisé en vue du second tour. Il s'agit de Franco Parisi qui a obtenu près de 13% des voix et arrive donc en troisième position. Sa particularité, ayant des problèmes avec la justice chilienne, il a fait une campagne virtuelle depuis les États-Unis où il habite. Il n'empêche, pour Diario Financiero, cette élection marque la fin d'un cycle politique au Chili, car pour la première fois depuis le retour de la démocratie, les représentants des deux grands partis traditionnels qui ont gouverné le pays depuis 22 ans seront absents au second tour.
Voilà, une surprise ou pas cette élection. Bonjour Franck Godichaud.
Bonjour.
Professeur en études latino-américaines à l'Université Toulouse. Jean Jaurès, merci d'être avec nous. L'extrême droite, donc en tête, Kast, adorateur de Pinochet, 2 ans après un grand soulèvement social contre les inégalités, alors que le Chili est en pleine rédaction d'une constitution pour remplacer justement celle issue de la dictature. C'est véritablement une surprise. Comment est-ce qu'on interprète ou pas un tel résultat? Expliquez-nous.
Oui, c'est une surprise en partie, le fait que José Antonio Kast arrive en première position dans ce premier tour. Et il y a une sorte de contre-réaction, un contre-coup, on peut dire, face au cycle politique qui s'était ouvert avec la grande révolte sociale de 2019 et la rédaction de cette nouvelle constitution. Là, c'est le parti de l'ordre, on pourrait dire, du retour à l'ordre, à la critique des mouvements sociaux et à une vision xénophobe et nationaliste. Un Chili très conservateur qui s'est exprimé dans les urnes.
Il a agité cette menace de l'immigration, notamment vénézuélienne, notamment aussi haïtienne, José Kast. Ça a marché, c'est un discours qui a fonctionné.
Oui, il a réussi à mobiliser un électorat qui était un peu déboussolé, on va dire, face à ce changement de cycle politique, des secteurs moyens, mais aussi populaires, plus une partie des élites, sur un discours très dur, revendiquant la dictature, l'ordre, le nationalisme. Et donc, il a des possibilités réelles maintenant de pouvoir passer au second tour.
Ouais. Est-ce que pour Gabriel Boric, donc, qui lui a œuvré pour la constituante qui est en train de rédiger la nouvelle loi fondamentale, est-ce qu'il était d'ailleurs donné en tête, hein, je le précise, par les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais quand même, on le dit, pour lui, c'est une mauvaise performance?
Oui, tout à fait. Il y a une grande déception dans l'espace politique de Gabriel Boric à gauche et surtout des grandes préoccupations. Quelle sera la capacité de ces arc de force politique de mobiliser les abstentionnistes. Il faut rappeler qu'il y a 53% d'abstention, et notamment au sein des classes populaires. Donc réussir à mobiliser pour faire front face à une option d'extrême droite qui menace toute la perspective de changement social qui s'est ouverte au Chili depuis 2019.
Il paye aussi peut-être une certaine violence qui a émaillé les mouvements de contestation, lui que l'on décrit comme le rouge, le communiste.
Oui, alors là, il faut dire qu'au Chili, il y a une très forte campagne sur l'agitation du communisme. C'est un vieux fond historique d'ailleurs au Chili. Gabriel Boric est effectivement allié au Parti communiste, mais il a un programme finalement relativement modéré. Mais il y a une campagne très forte anticommuniste. Et puis, oui, il y a cette impression sur laquelle a joué Caste, démobilisation, du désordre. Et donc, lui, il a proposé le retour d'un État fort face, entre guillemets, au désordre. Ordre social.
Franck Godichaud, vous évoquiez les abstentionnistes extrêmement nombreux cette fois-ci encore. Une partie de ces abstentionnistes peut-elle se mobiliser en vue du second tour le 19 décembre, et si elle se mobilise, pour qui?
Alors c'est la grande inconnue et surtout le défi en particulier pour la gauche, pour Boric, réussir à mobiliser cet électorat qui est resté chez lui dimanche, alors que José Antonio Kast, lui, a une réserve de voix bien plus consolidée sur la droite et donc est en meilleure position. Donc le défi, c'est pour le Parti communiste, pour Gabriel Boric, le Front large, de mobiliser ces secteurs déçus de la politique et qui rejettent le système électoral dans son ensemble.
Parce que Gabriel Boric ne peut pas forcément compter sur un report des voix de Yasna Provosté, la candidate de centre-gauche.
Eh bien, on a vu les ambiguïtés de sa déclaration. Yasna Provosté, c'est la démocratie chrétienne, donc c'est plutôt le centre, voire centre-droit, mais allié avec le Parti socialiste. Et elle a une relation très difficile avec ce secteur de la gauche. Et donc, elle n'a pas dit ouvertement qu'elle appellerait à voter Boric, même si elle a rejeté très clairement l'option Caste. Donc là, il y a tout un travail de négociation qui a déjà débuté pour essayer de reconstruire des alliances et mobiliser pour le second tour.
Yasna Provosté qui est arrivée quatrième, dernière, celui, on le disait, qui a créé la surprise, Franco-Parisi, qui est aux États-Unis, qui n'a pas mis un pied au Chili pendant la campagne électorale, candidat de la droite libérale. Vers qui ces voix vont-elles se reporter, selon vous, si on devait se projeter là?
Mais là, c'est un enjeu très, très important. Tout le monde est en train d'essayer de courtiser l'électorat de Monsieur Parisi. Il faut rappeler qu'à la dernière élection présidentielle, il avait donné aucune consigne de vote, ni à droite ni à gauche. Il est sur un secteur de l'antipolitique, on pourrait dire, ou un populisme de droite, le parti des gens, très critique de l'oligarchie, mais sur une position plutôt libérale au plan économique, donc plutôt penché vers la droite, mais il y a encore de fortes inconnues pour savoir s'il appellera ouvertement à voter pour M. Caste. En tout cas, pour la gauche, ça sera difficile de capter ses voix et de mobiliser dans ce secteur politique.
Caste d'un côté, Boric de l'autre. On en termine par là, Franck Godichaud. En tout cas, le Chili semble suivre le mouvement observé dans d'autres pays d'Amérique latine, des candidats aux antipodes, un pays extrêmement polarisé.
Exactement, et d'une certaine manière, Monsieur Caste incarne une sorte de bolsonarisme à la chilienne. Donc, c'est un phénomène qu'on a retrouvé avec Trump aux États-Unis également. Et donc là, il y a une lame de fond qui parcourt l'Amérique latine. Et quel que soit le résultat le 19 décembre prochain, qui est bien installé dans le pays et avec laquelle il faudra compter dans les prochaines années.
Franck Godichaud, spécialiste du Chili, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
RFI, las voces del mundo.
Et on en vient à présent à l'autre actualité électorale du week-end, c'est bien sûr le Venezuela. Le PSUV du président Maduro sort grand vainqueur des élections régionales et municipales d'hier. Sur les 23 postes de gouverneur, le parti au pouvoir en remporte 20. Stéphanie Schuller, vous êtes en direct avec nous de Caracas. Vous avez suivi ces élections, vous avez aussi passé la nuit avec les partisans du PSUV qui avaient organisé une soirée dans un théâtre de Caracas. On imagine, Stéphanie, des explosion de joie vu l'ampleur de la victoire.
Eh bien, pas vraiment. En fait, Michael, le président et homme fort du parti Diosdado Cabello et quelques autres têtes d'affiche chavistes étaient venus parler dans ce théâtre vers 10h du soir. Mais deux heures plus tard, au moment de l'annonce des résultats par le Conseil national électoral, il n'y avait étrangement plus personne du parti au pouvoir, seulement quelques journalistes. Pour avoir un peu une idée de l'ambiance quand même, on s'est rendu ensuite sur la célèbre Plaza Bolívar, où quelques centaines de sympathisants faisaient la fête devant une scène avec musiciens et discours politiques.
Et là, quelles étaient leurs réactions, Stéphanie ?
Alors bien sûr, tous se sont dit heureux et satisfaits de cette victoire écrasante, une victoire plus belle encore en raison de la participation, cette fois de l'opposition. Mais ce qui nous a surtout frappés, c'est que ces soutiens fidèles du régime n'hésitent plus à adresser des réclamations concrètes aux dirigeants socialistes. Contredisant le discours officiel, plusieurs nous ont dit hier soir que les sanctions économiques imposées par les États-Unis ne pouvaient plus servir d'excuse pour tous les graves problèmes du pays. Ces électeurs du PSOV attendent de leurs nouveaux élus des solutions concrètes pour soulager leur quotidien.
Oui, l'opposition que vous signaliez, hein, Stéphanie, qui participait pour la première fois à une élection après trois ans de boycott. Stéphanie, avec Bertrand Éclair en direct de Caracas. Merci à Rim Lipold, je reviens vers vous. Stéphanie le disait, drôle de victoire, est-ce aussi l'impression de la presse? Comment est-ce que les journaux commentent ces résultats?
Alors pour El Nacional, le véritable gagnant, Michael, c'est l'abstention qui s'élève à presque 60%. Les électeurs ont tourné le dos à la classe politique en général, d'après le directeur d'un institut de sondage. Le PSOE est puni pour ses 22 ans de gestion politique et l'opposition paye le prix de son manque d'unité, poursuit le quotidien. Le site d'information Tal Cual relate le fait que le président cubain Miguel Díaz-Canel a félicité son homologue vénézuélien pour sa victoire avant même la publication des premiers résultats par le Conseil national électoral. Le journal vénézuélien La Prensa, pour sa part, fait état de nombreuses irrégularités et d'agressions qui ont accompagné le scrutin, notamment dans les États remportés par l'opposition.
Merci beaucoup, Arim. Pour aller plus loin, c'est maintenant Thomas Posado qui est en ligne avec nous, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8. Bonjour.
Bonjour.
Des réclamations adressées au gouvernement par les partisans du PSOV eux-mêmes. Une forte abstention finalement. Oui, le parti au pouvoir écrase tout, Thomas Posado, mais est-il un grand gagnant?
Il gagne cette légitimité institutionnelle de pouvoir avoir 20 des 23 gouverneurs du pays. Après, vous l'avez clairement dit, l'abstention montre un très clair désintérêt et une très claire défiance à l'égard des élites politiques, qu'elles soient celles du gouvernement ou celles de l'opposition, et un manque de confiance dans le processus électoral.
Ouais, il y a une grande colère sociale au Venezuela compte tenu de l'ampleur de la crise économique. Ça n'a pas mobilisé les abstentionnistes vouloir peut-être sanctionner le gouvernement Maduro?
Tout à fait. Enfin, on est dans une situation où le PIB a chuté de 78% depuis 2014 et où les problèmes de pénurie, d'aliments, de médicaments, de services publics, d'électricité, d'eau qui sont à plat, personne ne pensait que la couleur politique du gouverneur pouvait changer leurs problèmes quotidiens. Donc effectivement, il y a eu cette défiance qui s'est incarnée dans les urnes et où ni Nicolas Maduro ni l'opposition ne semblent apporter des réponses à ces problèmes concrets-là, qui est une des origines de cette défiance.
Opposition qui était partie en ordre dispersé, elle participait pour la première fois depuis trois ans. Est-ce qu'elle paye cette désunion?
Clairement, dans les 20 États gagnés par Nicolas Maduro, seulement 4 ont été gagnés avec plus de 50%, donc avec la majorité absolue des suffrages. Les autres, c'est seulement la division de l'opposition qui lui permet de remporter ces scrutins. Donc 16 des 20 ont été gagnés avec une majorité relative. C'est clairement cette désunion qui est une des sources de cette défaite, en plus de secteurs minoritaires de l'opposition qui appelaient clairement à une abstention, donc qui ont grevé le vivier de voix potentiel de l'opposition.
Nicolas Maduro a essayé de se racheter aussi avec ce scrutin, donc ouvert aux observateurs. Est-ce qu'on peut malgré tout avoir un certain doute sur la partialité des opérations de vote?
Alors, il y a un peu plus de transparence que dans les scrutins précédents. Hein. Le Conseil national électoral qui est chargé d'organiser les élections a été réformé. Il y a des observateurs internationaux. Maintenant, il y a des irrégularités. Vous les mentionnez en introduction. Le Parti communiste qui organise une embryonnaire opposition de gauche s'est plaint d'une quinzaine de candidatures parmi les plus prometteuses pour lui qui ont été inhabilitées de manière complètement arbitraire par le pouvoir en place.
Opposition et gouvernement discutent depuis plusieurs mois. Discussion au point mort depuis cet été, Thomas Posado. À présent, est-ce que les deux partis et comment peuvent ces deux partis peuvent se servir de ces résultats électoraux dans le processus de négociation?
Alors, c'est toujours ce jeu de Pokémon Cutter qui est le cas dans toutes ces négociations autour du Venezuela. Nicolas Maduro sort renforcé par le fait qu'il garde cette légitimité institutionnelle dans la plupart des régions. Maintenant, l'opposition peut se sentir revigorée aussi par la possibilité de gagner qui est possible. Toujours est-il que le défi de l'unité de cette opposition n'est pas une mince affaire et que l'organisation, par exemple, des présidentielles de 2024 est un sérieux enjeu pour lequel les uns et les autres ne sont pas forcément d'accord sur les modalités et sur l'organisation du scrutin.
Ça ne profite pas plus à l'un qu'à l'autre, à l'une des deux parties.
Nicolas Maduro a clairement remporté le scrutin, hein. Enfin, gagner 20 des 23 États, ça, c'est pas une mince affaire, mais cette défiance, on la voit poindre et elle pourrait être capitalisée par les uns, par les autres ou par d'autres forces qui soient ni Maduro ni l'opposition, mais on voit pas une adhésion de la population à Nicolas Maduro. Par contre, sur les positions institutionnelles, oui, Nicolas Maduro a emporté ce scrutin.
Thomas Posado, spécialiste du Venezuela, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. Voilà donc pour ces deux scrutins décryptés. En bref, je vous signale juste ces deux libérations en Haïti, deux otages parmi les 17 missionnaires nord-américains qui avaient été enlevés à Port-au-Prince mi-octobre. Ils ont recouvré la liberté hier. Ils sont sains et saufs. On n'a aucune information cependant sur les 15 autres personnes enlevées avec elles.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
En Martinique, une vingtaine d'organisations syndicales et professionnelles se mobilisent contre l'obligation vaccinale des soignants, mais aussi contre la vie chère.
Et plusieurs secteurs d'activité risquent d'être perturbés. Au moment où je vous parle, une assemblée générale se tient à la maison des syndicats à Fort-de-France. Des actions fortes seront menées aujourd'hui, notamment des perturbations à l'école et dans les livraisons de carburant. L'intersyndicale veut convaincre ainsi le gouvernement de la nécessité d'établir un véritable dialogue. Jaribo, membre de l'intersyndicale Santé Martinique, joint par nos confrères de Martinique la Première.
C'est l'obligation vaccinale qui pose problème et qui pose problème non seulement aux soignants, mais à la population entière, puisqu'on a le taux de vaccination qui est en train de stagner, mais aussi dans les conditions de vie qui sont aujourd'hui les nôtres, qui s'expriment de façon très claire dans des revendications où est-ce qu'on constate que le prix de la vie augmente. Donc le niveau de capacité de répondre à la vie est très difficile pour certaines couches de la population et pas simplement ceux qui travaillent. Alors nous croyons aujourd'hui qu'il est nécessaire que cette situation-là trouve une réponse beaucoup plus adaptée que la pression, beaucoup plus adaptée que la répression et qu'il s'agit aujourd'hui pour le gouvernement de répondre présent à l'appel.
Une grande partie de la Guadeloupe se réveille ce lundi, toujours sous les tensions et les violences générées par la contestation contre l'obligation vaccinale. Les principaux axes routiers restent bloqués, les écoles fermées ce lundi par principe de précaution. La nuit dans le chef-lieu Pointe-à-Pitre a été émaillée d'affrontements avec les forces de l'ordre. Une réunion est prévue à Matignon ce soir entre le Premier ministre et les élus guadeloupéens. Le collectif d'organisation syndicale à l'origine du mouvement social se dit prêt à discuter avec le gouvernement, mais non sans condition. Jocelyn Zou, de Force ouvrière pompier, au micro Guadeloupe la Première.
Il est vrai que nous sommes pour la discussion, mais sur la base de nos revendications, c'est non l'obligation vaccinale, non pas sanitaire, et oui à l'accès aux soins. Aujourd'hui, on a nos jeunes qui manifestent, qui eux aussi disent non pas sanitaire. Eux aussi ont des revendications, surtout pour la formation. Ce sont des diplômés aussi qui manifestent, qu'on peut trouver violents, mais qui aussi ont des besoins et des besoins réels.
Et avant de vous quitter, un mot sur la Transat Jacques Vabre, la compétition à voile en double qui traverse l'Atlantique entre Le Havre et Fort-de-France. Les premiers concurrents devraient franchir la ligne d'arrivée cette nuit en Martinique après 15 jours de mer. Des concurrents qui ont accéléré ces dernières heures. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana Maron. À vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Au pas de course aujourd'hui. Merci beaucoup à Hélène Avril qui était à la réalisation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous le savez, vous pouvez commenter l'actualité sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec @RFIAmérique. Très bonne journée à tous.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.